Bonjour à tous et bienvenue dans ce lieu. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 9. Avant de faire la lecture, j'aimerais juste citer ce proverbe que j'ai entendu une fois de quelqu'un qui disait « La vie, c'est une maladie héréditaire mortelle. » Dans un certain sens, c'est pas faux. Mais on va le voir cet après-midi, que c'est une maladie, entre guillemets, qui peut se guérir. Matthieu, chapitre 9, au verset 9. En passant plus loin, Jésus vit un homme, appelé Matthieu, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Jésus était à table dans la maison. Or, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples. À cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et on va s'arrêter là. Nous avons ici un texte où il est question de malades, de médecins. Et Jésus lui-même, on va commencer par ça, sur ce passage, on va parler directement du médecin. J'aimerais présenter le médecin, celui qui se présente comme étant le médecin. Et on va voir dans cette histoire qu'il y en a qui sont guéris, d'autres pas d'ailleurs, parce qu'ils pensent ne pas être malades. Et pourtant, il y a ici parmi eux un médecin. Et comme l'a dit aussi Olivier, il n'y a que ceux qui attendent d'aller chercher, qui obtiendront. Et tout est possible à celui qui croit. Il y a un acte de foi à faire. Et en ce qui nous concerne, je crois que quand nous sommes malades, on va tous chez le médecin parce qu'on croit qu'il peut nous apporter quelque chose. Même si ça ne nous fait pas toujours plaisir d'ailleurs. On est tous bien d'accord ? Alors j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Et si Jésus se présente comme le médecin, j'aimerais qu'on puisse voir de quelle maladie on peut être atteint. Et pour ça, on va aller dans le livre, dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5. Et on va lire le verset 19. Voilà ce qui amène à la mort. Voilà pourquoi on dit que la maladie, la vie finalement est mortelle. Mais parce que à la vie dont nous sommes issus, nous pratiquons tous des choses qui nous mènent intrinsèquement à la mort. Au verset 19, on lit ceci, « Or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. » La liste est déjà longue, mais on voit qu'il aurait pu continuer. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et là, on a quand même un diagnostic médical qui est très très clair. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous allez chez le médecin, comment ça se passe? Le médecin, vous arrivez dans le bureau du médecin, et il vous dit « Alors, qu'est-ce qui vous arrive ?» Eh ben, j'ai mal à la gorge, je me sens un peu fébrile. Alors il va ausculter votre gorge, il va regarder à la lumière. Ah, je vois que c'est blanc au fond, là. Vous avez une angine. Ah d'accord, je suis donc malade. Oui, vous êtes malade. Et il faut prendre le traitement. Et ce qui est bien avec nos médecins, c'est qu'on leur dit merci et en plus on les paye. C'est normal. Là, on a affaire à un médecin qui nous dit la même chose, qui nous fait un diagnostic sur notre vie, mais celui-là, il est gratuit. celui-là est gratuit. Vous allez voir ce divin médecin, vous lisez dans la parole que les ivrognes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ah, donc il y a un problème. Il y a un problème. Oui, le diagnostic, c'est dans ta vie. Et il y a un problème. Dans ta vie, il y a des rivalités. Dans ta vie, il y a la jalousie. Il y a des envies qui te poussent à faire des choses que tu regrettes après. Dans ta vie, il y a peut-être de la magie. Peut-être que tu t'amuses à jouer avec les guérisseurs, les occultes, l'occultisme, ces choses-là. Certains vont voir les guérisseurs parce qu'ils ne savent pas que ce sont des personnes qui sont liées aux choses occultes. Par définition, ce qui est occulte, c'est ce qui est caché. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment il fait. Quand je vais voir un médecin, j'aime bien savoir comment je suis guéri quelque part. Je sais que je prends un médicament qui agit sur mon organisme et qui va faire que je vais avoir la guérison. Ça, d'accord. À partir du moment où je guéris sans savoir comment, c'est occulte par définition. Et tout ce qui revient de ce genre de guérison, attention, parce qu'on est en train d'ouvrir des portes à des choses très mauvaises qui pourraient pénétrer en nous et nous faire vraiment du mal. La magie fait partie de ce que Dieu réprouve. Les hostilités, mais il y a des choses plus classiques, on va dire, hein. Les hostilités, la discorde, le fait de pas être d'accord et de rester sur notre position, de ne pas se pardonner. Des situations comme ça peuvent être là et nous amener à la mort. C'est malheureux à dire, mais ça peut nous amener là. Par contre, il est très important dans ces versets de souligner le verbe. Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas. Donc là, je parle de personnes qui finalement sont dans une position de complaisance vis-à-vis du mal qui les atteint. Est-ce que nous avons là un jugement de Dieu ? Absolument pas. C'est comme si je disais que suite à avoir pris connaissance de ta maladie, tu ne suis pas ton traitement et ce qui va se passer doit arriver. La maladie reprendra le dessus et tu vas subir les conséquences de ta maladie. Et il n'y a aucun jugement, aucune punition. Il y a simplement le fait que nous allons finalement récolter ce que nous semons. Celui qui est malade et qui ne prend pas son traitement, eh bien, il va subir simplement le résultat de sa maladie. Et sa maladie va progresser. Et si c'est une maladie grave, elle peut l'amener loin. Donc quelqu'un qui se livre à ses pratiques, quelqu'un qui se complaît dans l'ivrognerie, quelqu'un qui se complaît dans les violences, les violences verbales, dans les violences même physiques. Je ne sais pas de quoi est fait votre vie. Ceux qui sont sans cesse jaloux et qui les amènent, une jalousie qui les amène à faire des choses horribles. Parce que la jalousie, quand on voit où est-ce que c'est capable de mener quelqu'un, c'est très très grave. Ça semble rien comme ça la jalousie, mais ça peut mener très très loin. Les rivalités, les divisions, tout ça, ce sont des choses qui sont en vous. Et si je devais résumer toutes ces choses en un seul mot, ça s'appelle le péché, tout simplement. Et ce sont des choses qui sont là en nous. Si tu vas voir la parole, comme nous venons de le voir, et que tu constates que dans cette liste, tu retrouves un comportement qui est le tien, et surtout que tu constates en plus que ça ne te dérangeait pas particulièrement, alors laisse-moi te dire que tu y es atteint d'une maladie qui t'amènera à la mort. Et cette maladie, ça s'appelle le péché. La maladie du péché. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Celui qui reste, qui demeure dans son péché, ça veut dire que suite au diagnostic du médecin, il reste malade parce qu'il refuse d'appliquer le traitement. il restera malade, tout simplement. Laisse-moi te dire qu'on va aller un peu plus loin. Mais si, à l'écoute de ce diagnostic sur ta vie, tu demeures tel que tu es, tu resteras malade. Et un jour, hélas, tu seras amené à mourir et à comparaître devant Dieu. C'est aussi simple que ça. Mais le jugement, c'est simplement la conséquence de ta réaction face au diagnostic du médecin. Jésus se présente comme étant le grand médecin. Et en tant que médecin, un médecin apporte un traitement. Et Jésus, il est écrit dans la parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Autrement dit, Jésus, ce grand médecin, est venu un jour sur la terre pour nous montrer la voie. Et aussi, surtout, pour nous dire que lui, il est la vie éternelle. Jésus est la vie. Celui qui croit en Jésus a la vie. Et celui qui ne croit pas en Jésus n'a pas la vie. Autrement dit, celui qui accepte le diagnostic et qui croit dans l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix a la vie. Et celui qui refuse de croire que Jésus a payé pour lui ne peut pas recevoir la vie de Dieu. Et en cela, Jésus est venu aussi marcher parmi nous et il nous prouve même qu'il est la vie. Parce qu'il va passer par la mort. Et la mort ne pourra pas le retenir. Parce que le troisième jour, il va ressusciter. Pourquoi ? Parce qu'il est la vie. Quelque part, je crois que le simple fait que Jésus soit mort et qu'il soit ressuscité encourage les chrétiens forcément. Parce qu'ils ont vu l'exemple en Jésus que la mort n'avait aucune puissance sur celui qui était habité de l'Esprit de Dieu. Et en ce qui nous concerne, nous qui sommes chrétiens, nous ne craignons pas la mort, parce que nous savons que nous avons la vie éternelle. Jésus en a fourni la preuve, il est mort, et trois jours après, il est ressuscité. Je ne suis pas en train de dire que trois jours après votre mort, vous allez ressusciter. Mais au temps fixé, vous ressusciterez pour la vie éternelle. Jésus est ressuscité le troisième jour parce que ce troisième jour était aussi un temps fixé par les prophéties. Et en ce qui concerne les chrétiens, ceux qui sont morts, au temps fixé, ils ressusciteront pour la vie éternelle. C'est la même règle. Mais du coup, le vrai chrétien, lui, n'a pas peur de la mort. Parce qu'il a la vie de Dieu en lui. C'est Jésus qui dit ceci, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Je l'ai cité, je viens de le citer. Je retrouve mes notes. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui est atteint de la maladie du péché a sur lui la colère de Dieu. Je suis en train de vous dire qu'il y a un traitement, que Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité tout entière. Jésus a vécu sans commettre de péché, malgré cette nature qui pouvait l'y pousser. Jamais il n'a failli. Jamais il n'est tombé. Et il est allé jusqu'à la mort, parce qu'il est la vie, et parce qu'il a vaincu la mort. Le Seigneur Jésus a souffert terriblement toute sa vie, depuis son enfance jusqu'à sa mort. Tout ça parce qu'il nous aime. Tout ça parce qu'il t'aime. Et je le dis d'une manière personnelle, il t'aime et il est mort pour toi, pour tes péchés. Et il a pris ta condamnation sur lui, alors qu'il n'était pas censé mourir. Il est passé par la mort. Il est mort pour toi. Et j'aimerais te dire cet après-midi que devant ce diagnostic terrible qui te dit que tu es perdu, tu dois aller en enfer. À cause de ce péché, le Seigneur veut te retirer de là. Il veut te retirer de cette fosse qui te laisse au fond. Le Seigneur t'aime tellement qu'il a donné lui-même sa vie pour toi, pour que toi, tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu. Jésus est donc ce grand médecin qui guérit, c'est vrai, les maladies physiques, les maladies psychologiques. Il guérit toutes les maladies. Mais surtout, il est venu pour guérir de la maladie du péché. Et cet après-midi, tu peux obtenir la guérison si seulement tu recevais le diagnostic du médecin. Est-ce que tu t'es reconnu dans cette liste ? Est-ce que tu t'es reconnu quand j'ai lu que les impuretés faisaient partie du péché ? Est-ce que tu passes ton temps à regarder des saletés sur ton téléphone ou ton ordinateur ? Alors tu es dans la liste. Mais ça ne s'arrête pas au diagnostic. Quand on va voir un médecin, il me propose un traitement. Et Jésus est le traitement. Jésus est le traitement pour toi. Et tu peux obtenir la grâce de Dieu, là, maintenant, cet après-midi. J'aimerais avancer un petit peu sur ce passage. Et j'aimerais relever cette même histoire. Je crois que Matthieu ou Luc, c'est pareil. J'avais noté la référence de Luc qui relate cette même histoire. Dans Luc, chapitre 5, verset 27, je lis dans ma Bible, « Après cela, Jésus sortit et il aperçut un péager nommé Lévi, assis au bureau des péages. » Dans une autre version, j'ai ceci. « En sortant de la maison, Jésus remarqua, en passant, un collecteur d'impôts nommé Lévi, installé à son bureau de péage. » Autrement dit, Jésus était en plein déplacement. Jésus allait d'un point A à un point B, et alors qu'il était en chemin, alors qu'il marchait normalement, il aperçut quelqu'un, et il l'a remarqué de suite. Jésus, c'est non seulement un grand médecin, mais c'est un médecin altruiste. C'est malheureux à dire, mais dans le monde, tous les médecins ne sont pas altruistes. Et pourtant, quand on est médecin, logiquement, c'est qu'il y a déjà un certain fond qui doit exister d'altruisme. Mais Jésus, lui, il ne faisait pas que marcher dans sa direction, le nez penché sur son smartphone. Mais non, Jésus, il marchait, mais il avait les yeux bien ouverts, les oreilles grandes ouvertes, et il regardait quand même ce qui se passait autour de lui. Et il a vu un homme, et il a vu un homme qui était au péage. Et cet homme-là, il avait ses circonstances de vie, mais ce que j'aimerais juste appuyer pour l'instant, c'est le fait que Jésus l'ait remarqué. Il n'était pas censé le voir. Jésus savait qu'il allait être sur sa route. Mais quand même, il l'a vu en passant. Et Jésus l'a remarqué. Et Jésus, qu'est-ce qu'il voit quand il voit Matthieu ? Il voit un homme qui est malade, qui a besoin d'être guéri. Un médecin, quand il connaît bien les maladies, il repère vite ce qui se passe. Il n'a pas besoin de dire beaucoup de symptômes pour le mettre sur la voie. Jésus, quand il regarde Matthieu, il voit aussi un homme conscient de sa maladie et qui aimerait être guéri. Et je crois que ça attire particulièrement le cœur de Dieu. J'aimerais te dire cet après-midi que qui que tu sois, où que tu sois dans ta vie, est-ce que tu es au fond du trou, est-ce que tu te sens normal, je dirais, mais que peut-être que, vu la liste que j'ai lue, tu t'es senti interpellé quand même. Quelle que soit ta situation, Jésus t'appelle. Il te dit qu'il t'aime et il t'appelle. Cet après-midi, il t'appelle. Et dans cette histoire, on a aussi les pharisiens, les scribes, qui, suite à son comportement, suite au fait qu'il aille manger avec les amis de Matthieu, qui vont lui faire des réflexions. Et par rapport à ces réflexions, ces accusations, parce que les Juifs, juste avant, Jésus avait guéri un paralytique, et ils étaient en train de taxer Jésus de mensonge, de menteur. Là, ils sont en train de le taxer d'association de malfaiteurs, quasiment, parce qu'il est avec des gens de mauvaise vie. Et les Juifs parlent à Jésus d'une manière indirecte, en plus, ils vont pas le voir directement. Et pourtant, Jésus, on voit tout son altruisme, parce qu'il aurait pu faire la sourde oreille. Il aurait pu dire, c'est leur affaire, c'est ce qu'ils pensent, tant pis pour eux. Mais non. Jésus, une fois qu'il a entendu cette parole des Juifs, des pharisiens, des scribes, il va leur donner une réponse. Et une réponse si subtile, une réponse si intelligente, si tendre, alors qu'eux étaient si durs envers lui. Jésus leur a tendu la main. Et Jésus, Finalement, quand on voit comment il se comporte avec les pharisiens, qui étaient durs, qui refusaient, qui résistaient, j'aimerais te dire cet après-midi que si tu es dans une situation de résistance, si tu, c'est pas la première fois que tu viens, que tu as entendu plusieurs fois le message de l'Évangile et que tu n'as pas fait le pas, tu ne t'es pas approché, tu as toujours résisté, Jésus t'appelle de la même manière, parce qu'il t'aime. Il voit ta résistance et il en est le premier malheureux pour toi, parce qu'à résister, tu te fais du mal. Et il le sait, parce que la maladie dont tu es atteint continue, elle fait son œuvre, elle fait son chemin. Et jusqu'où va t'amener cette maladie du péché? S'il y en a un qui en est bien conscient, c'est Dieu. Il sait de quoi tu es formé. Et quand il te voit résister, il te tend encore la main, comme Jésus a tendu sa main aux pharisiens qui l'insultaient, les pharisiens qui l'accusaient. Encore une fois, il ne fait pas la sourde oreille, mais il va les voir. Il va les voir. C'est lui qui fait le premier pas, parce que les pharisiens n'ont pas osé aller le voir directement. Jésus, dans toute sa tendresse, va les voir directement et leur dire ce qui ne va pas. Oui, ce verset est vrai. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a fait le premier pas. Dieu a fait le premier pas. Que tu sois dans le péché, c'est une chose. Tu as entendu le diagnostic. Dieu a fait le premier pas en la personne de Jésus quand il est allé sur la croix. Maintenant, regardons les attitudes de ces personnages qui sont impliqués dans cette histoire. En premier lieu, j'aimerais juste aborder les pharisiens et les scribes. Comment eux réagissent quand ils voient cette histoire? Ils voient Jésus qui descend, ils voient qu'il appelle Matthieu à le suivre. Alors Matthieu, ils vont voir que sa vie est changée quand même. De péager qu'il était, il se retrouve disciple de Christ, sa vie va changer, et dans sa joie, il va inviter tous ses collègues, tous ses amis, parce qu'il va quitter son travail. Dans le monde du travail, on dit qu'on fait le pot de départ. Je ne sais pas si c'était son pot de départ, mais en tout cas, il était animé d'une chose, Matthieu. C'est que Matthieu voulait que ses collègues, ses amis, tous ceux de son entourage, puissent connaître la même joie que lui a connue quand Jésus l'a appelé. On va parler un peu plus tard de l'attitude de Matthieu. Mais les disciples ont vu cette scène. Ils ont vu cet homme changer littéralement d'attitude. Ils connaissaient très bien ce Matthieu qui était au péage. Et ils l'ont vu tout quitter, d'un seul coup. Ils l'ont vu certainement changer. Et ils n'ont pas réagi. Ils n'ont rien compris. Eux pensaient qu'ils avaient la vérité. Ils pensaient qu'ils étaient des gens qui vraiment honoraient Dieu. Et on voit des gens qui finalement surveillent les moindres faits et gestes de Jésus dans le but de le dénoncer. Ces pharisiens n'ont témoigné aucune joie à l'égard de cet homme qui passait de la mort à la vie. Ils n'ont même pas eu de bonne réaction face à cette personne qui probablement volait et qui arrête tout du jour au lendemain, et qui suit Jésus, celui qui prêchait l'amour, celui qui prêchait, qui guérissait les malades. Non, ils ne se sont pas réjouis. Ils ne se sont pas réjouis. Et bien au contraire, ils ont accusé Jésus. Et ils ont eu cette attitude d'accuser Jésus. Quand ils le voient manger avec les collègues de Matthieu, Jésus était avec eux, pas pour les encourager dans leur maladie, mais bien au contraire, il était là en tant que médecin, c'est ce qu'il dit, dans le but de leur ouvrir les yeux, de leur montrer qu'ils avaient besoin de la grâce de Dieu. Et Jésus était là uniquement dans ce but, et les pharisiens n'ont rien compris. Tellement imbus d'eux-mêmes, tellement hypocrites, parce qu'ils voulaient eux-mêmes la gloire. Parce que eux pensaient qu'ils avaient la vérité et que Jésus, d'où il venait, était un intrus. Ils voyaient en Jésus un intrus. Ils voyaient en Jésus quelqu'un qui n'avait rien à faire là, mais du moins quelqu'un qui les piquait, qui les dérangeait. Et au lieu de réfléchir, ils se sont opposés. Quand on voit la parole que Jésus leur donne, c'est là qu'on voit toute la subtilité de Jésus. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alors, de l'extérieur, les gens pouvaient penser qu'ils parlaient des gens autour de Matthieu. Mais Jésus s'adressait directement aux pharisiens. Les pharisiens, eux seuls, étaient capables de lire cette parole dans ce sens. Et quand Jésus cite la parole à des personnes qui connaissaient la loi, la parole sur le bout des ongles, et Jésus leur dit « Allez apprendre, allez apprendre ». On l'a lu dans Matthieu 9. Dans Matthieu 9, c'est écrit, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Verset 13. « Allez apprendre ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Et Jésus il cite là une parole qu'on trouve dans le prophète Osée. Je suis allé voir, et il y a la suite qui est intéressante, qui nous dit, c'est Dieu qui parle, « car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes ». Les pharisiens, c'était des religieux. C'était des gens qui avaient une pratique religieuse et qui se satisfaisaient de réussir par leur propre force à obéir à toute la tradition, à la loi, quoi que ce soit. Ils étaient imbus d'eux-mêmes. Mais ce verset dit que finalement, quand Jésus pointe ce verset précisément aux pharisiens, Jésus leur dit « Vous ne connaissez pas Dieu. Et ce n'est pas ta religion qui va faire que tu vas connaître Dieu. » Ce n'est pas le fait de pratiquer de bonnes œuvres qui va faire que tu connais Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas donner au Téléthon ou l'association contre le cancer qui va faire que tu vas connaître Dieu. Ces bonnes œuvres-là, elles ne valent rien du tout dans la balance. Et je ne voudrais pas que tu te trompes par de faux raisonnements. Le traitement à ta maladie du péché, ce n'est pas d'essayer de t'améliorer, ce n'est pas essayer de faire de bonnes œuvres. C'est Jésus-Christ, et c'est seulement l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui peut te sauver. Et ça, les pharisiens ne l'avaient pas compris. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est écrit dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Est-ce que Jésus voulait guérir les pharisiens ? Bien sûr que oui, mais eux n'en ont pas voulu. Ils ont refusé le diagnostic. En plus, eux qui connaissaient la parole, Jésus leur donne un texte de l'Écriture pour qu'ils réfléchissent. C'est de dire toute la manière fine avec laquelle Jésus s'y est pris pour les faire réfléchir. J'aimerais terminer sur Matthieu, qui est le personnage qui a la bonne attitude. Matthieu, lui... On voit quelqu'un qui est mal dans sa peau. Il est péagé. Dans le contexte de la ville où il était, il pouvait être traité de collabo. Je pense que pour ceux qui ont un certain âge, ça résonne. Être collabo. Quelqu'un qui avait pactisé avec l'ennemi. Quelqu'un qui travaillait pour l'ennemi. Voilà qui était Matthieu. Mais quelqu'un qui, en plus... de pactiser avec l'ennemi, profiter largement de sa situation, qui devait voler et il devait être riche, et qui fréquentait, on en a la preuve, des gens de mauvaise vie. La vie de Matthieu n'était pas réjouissante. Simplement, on a affaire ici à quelqu'un, pour que Jésus l'ait remarqué ainsi, qui était conscient en lui-même de son problème. Dans la Bible, il est écrit que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et Matthieu, dans son péché, dans sa situation, au fond du trou peut-être qu'il était, peut-être que quand il était chez lui, il était sans cesse baigné de larmes par rapport à sa situation, parce qu'il était malheureux d'être comme il était. Jésus l'a vu. Jésus a vu son humilité de cœur. Et Jésus va lui proposer, lui aussi, le remède à sa situation. Suis-moi. Si on suit Jésus, on a la vie. Si on suit Jésus, on est guéri de la maladie, du péché. Et ça, Matthieu l'a compris de suite. Dès que Jésus lui a parlé, il l'a compris. Et on voit que Matthieu, sa vie va changer. La preuve, c'est qu'il témoigne de suite et il veut que ses amis, ses collègues puissent aussi entendre ce Jésus qui a changé sa vie en deux mots. En français, dans la langue originale, j'en sais rien. En français, on a deux mots. C'est pas beaucoup de mots pour changer une vie. Il y a un choix à faire maintenant pour toi cet après-midi. Tu as entendu le diagnostic. Tu connais la solution. Maintenant, il y a un choix à faire. Et c'est un choix personnel qu'il faut faire. Je ne sais pas si vous remarquez que dans le passage, les pharisiens, c'est les pharisiens. Ils sont toujours en groupe. Ils sont toujours les uns avec les autres. Et ils s'encouragent mutuellement dans leur faux raisonnement. Ils sont toujours en train de s'encourager dans leur erreur. Et l'effet de groupe fait qu'ils n'ont pas pu recevoir la parole de Jésus. Le salut, il est personnel. Et le choix que tu vas faire cet après-midi, il est personnel. Et peu importe les autres. Toi, suis Jésus. Pour reprendre une parole que Jésus dit à Pierre. Toi, suis Jésus. Ce salut, il est personnel. Peu importe les autres. Ne fais pas comme les pharisiens, qui peut-être se sont fait avoir aussi par l'effet de groupe. Sans cesse à regarder ce que les autres pensaient. Le choix, il est à faire maintenant. Qui connaît la durée de sa vie? Je disais en introduction que la vie est une maladie mortelle. Et malheureusement, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Quel est notre dernier jour? On ne sait pas. Demain, on va faire l'inhumation d'un homme qui avait à peine une cinquantaine d'années. 60 ans plutôt. Mais 60 ans, c'est pas vieux quand même. Mais on peut mourir à tout âge. Et c'est de notre vivant que nous décidons. Si je résiste, et que je reste malade, ma maladie du péché va me tuer, tout simplement. Et une fois que je serai mort par cette maladie du péché, ce sera trop tard. Il faut prendre les traitements avant de mourir. Le plus rapidement possible. Parce que cette maladie, effectivement, elle est mortelle. Le péché mène à la mort et à rien d'autre. La séparation pour l'éternité avec Dieu. Ce choix, il est à faire maintenant. Celui qui ne reçoit pas Jésus, il reste malade, tout simplement. Et tu mourras pas à cause du fait que Dieu va te punir. Tu mourras parce que tu auras refusé d'appliquer le traitement qui voulait te guérir. J'aimerais qu'on puisse se recueillir quelques instants. Le message est simple cet après-midi. Tu es malade à cause du péché. Le traitement existe en la personne de Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour toi, lui qui te permet d'être pardonné de tes péchés. Est-ce que tu acceptes humblement d'être reconnu comme quelqu'un qui est pécheur devant Dieu? Quand on va voir un médecin, et que le médecin nous dit notre maladie, on n'est pas en train de lui dire « Mais non, vous vous trompez, c'est pas vrai. » C'est absurde. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que c'est complètement absurde que d'aller chez le médecin et alors que le médecin nous dit ce qui ne va pas, on lui dit « Mais non, c'est pas vrai. » Et on repart. C'est absurde. Cet après-midi, je t'annonce que tu es malade du péché et que la finalité de cette maladie, c'est la mort. Est-ce que tu acceptes cet état de fait? Oui ou non? Et je ne suis pas là que pour t'annoncer que tu es malade. Je suis là pour t'annoncer que tu peux saisir la guérison en Jésus-Christ. Est-ce que oui ou non, tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi sur la croix du calvaire, qu'il a souffert pour toi, que son sang a coulé et qu'il a été condamné injustement, mais pour toi? Pour que toi, tu puisses bénéficier de la vie éternelle. Dieu t'a tant aimé, et vous pouvez mettre votre prénom, qu'il a donné son Fils unique afin que vous puissiez croire et que vous ayez la vie éternelle. C'est une assurance que vous pouvez saisir dès maintenant. Est-ce que tu acceptes le traitement que Dieu te donne cet après-midi. Suis-moi. Matthieu s'est levé, a tout laissé. Il a abandonné toute sa mauvaise vie. Et il a accepté de suivre Christ. Et il l'a fait avec joie. Parce qu'il a compris que Jésus l'aimait. Il a compris que Dieu l'aimait. Et cet après-midi, Dieu t'aime. Et s'il te demande de le suivre, c'est pour te faire du bien. C'est pour te délivrer de tout ce qui t'enchaîne. C'est pour te délivrer de tout ce qui est là sur ton cœur et qui t'empêche d'être proche de lui. Le Seigneur t'appelle cet après-midi. J'aimerais qu'on puisse vraiment rester recueillis et vous proposer de venir sur le devant. Vous qui avez besoin de la grâce de Dieu, approchez-vous sur le devant et avec le pasteur, on priera pour vous. Et on demandera au Seigneur qu'il se révèle à votre cœur. On demandera au Seigneur qu'il vous restaure complètement, qu'il puisse vous visiter et que vous puissiez saisir la grâce de la vie éternelle par la foi.